beaucoup de joueurs fatigués, voire blessés.
Bon, bah, ça fait débat et vous continuez à nous en parler évidemment sur la page d'Europe 1 matin week-end. Bon dimanche à tous, nous sommes le 15 juin. Excellent réveil à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h.
Lénaïque Monnier.
Et à 7h, c'est Alexis de la Fléchère qui revient vous informer. Bonjour Alexis.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
À la une de votre journal, des missiles iraniens qui ont fait plusieurs morts cette nuit et ce matin en Israël. L'escalade se poursuit entre l'État hébreu et l'Iran. Troisième nuit d'échange de tirs, Europe 1 en direct de Tel Aviv dès le début de ce journal. Dans un instant également, le déplacement d'Emmanuel Macron au Groenland, territoire autonome du Danemark que Donald Trump rêve de conquérir. Quels sont les enjeux de cette visite sur cette île tant convoitée? Décryptage dans cette édition. Et puis 80 ans après la chute du nazisme, un chemin de la mémoire vient tout juste d'être inauguré en Nouvelle-Aquitaine. Europe 1 y était. Voilà pour les titres de votre journal. Alexis, nous les développons juste après votre tendance météo, Anthony Kazmarek.
Un temps lourd et orageux encore entre le sud-ouest, le centre et les frontières de l'est. Ce sera ensoleillé et très chaud près de la Méditerranée, plus de 30 degrés encore, mais plus frais avec des éclaircies sur le quart nord-ouest.
Et météo complète à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et à la une donc, le Proche-Orient qui continue de s'embraser. Dans la nuit, de nouveaux échanges de tirs ont eu lieu entre Israël et l'Iran.
Oui, troisième nuit de tension entre les deux pays qui se rendent coup pour coup en Israël. Plusieurs personnes sont mortes dans des tirs de missiles iraniens. L'État hébreu annonce lui avoir répliqué en touchant de nouveaux sites stratégiques à Téhéran dans des dépôts de pétroliers. Le ministère de la Défense iranien visé également légèrement endommagé. Bonjour Frédéric Simon.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, l'escalade, on le comprend bien Frédéric, se poursuit. Quels sont les dégâts ce matin en Israël et le bilan humain après ces tirs de missiles iraniens?
Oui, bien, deux salves de missiles iraniens ont été tirées hier soir et au cours de la nuit, provoquant la mort de 8 personnes au moins. La première salve visait le nord d'Israël et la ville portuaire de Haïfa. 4 habitantes d'une localité arabe israélienne, celle de Tamra, ont été tuées. Parmi elles, une mère de famille et ses 2 filles. 10 autres personnes sont blessées, dont une grièvement. Plusieurs heures plus tard, la seconde salve de missiles se dirigeait vers le centre d'Israël. Là aussi, le bilan est très lourd, puisque l'on déplore 4 tués, dont 2 enfants, dans la ville de Bat Yam, au sud de Tel Aviv, un bilan qui pourrait s'alourdir puisque à l'heure où nous parlons 20 personnes sont portées disparues. Les services de secours procèdent à des recherches dans les décombres d'immeubles directement touchés par les missiles à Bat Yam et dans une autre ville du centre d'Israël, celle de Rehovot. On dénombre plus de 200 blessés, dont 5 au moins dans un état grave. Parallèlement, Israël poursuit ses frappes aériennes en Iran, notamment sur la capitale Téhéran. La défense anti-aérienne y a été presque entièrement détruite, ce qui donne à l'aviation israélienne une grande liberté de manœuvre. Des dizaines d'objectifs ont été ciblés, parmi lesquels la principale raffinerie de pétrole de l'Iran, ainsi que le quartier général de la Défense.
Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron s'est donc entretenu hier avec le président iranien Massoud Pezeshkian.
Lui demandant de revenir très rapidement à la table des négociations sur le nucléaire et l'exhortant aussi à libérer Cécile Kohler et Jacques Paris, deux otages du régime iranien, retenus dans des conditions inacceptables depuis plus de 3 ans, a dit le président de la République. La France, qui historiquement a toujours été aux côtés d'Israël, des liens indéfectibles, comme l'a expliqué hier Martin Garagnon. Il est porte-parole du parti Ensemble pour la République. Il était l'invité d'Europe 1 Nuit.
La position de la France, elle a toujours été la même. En l'occurrence, je vous parlais de Gaza et de la Palestine. C'est la solution politique à 2 États. C'est la position de la France, celle d'Emmanuel Macron, celle de ses prédécesseurs et celle qui devra prévaloir encore demain. Mais en revanche, le contexte évolue. Au lendemain des massacres terroristes du 7 octobre, vous aviez des gens qui avaient du mal à condamner ces actes-là, qui avaient du mal à dire que le Hamas, oui, c'était un mouvement terroriste et qu'il fallait le combattre. Nous, on l'a fait de manière extrêmement claire et on a aussi dit qu'Israël avait évidemment, bien entendu, toujours le droit de se défendre, de se protéger. En revanche, ce qui a changé, c'est l'atteinte aux populations civiles de Gaza. C'est une faute morale, évidemment, c'est une faute de droit, et c'est même une faute tactique de la part du gouvernement israélien à l'heure actuelle, puisque c'est construire les massacres de demain.
Martin Garagnon, porte-parole du parti Ensemble pour la République.
Et Emmanuel Macron qui va se rendre aujourd'hui au Groenland.
Oui, porteur d'un message de solidarité pour ce territoire autonome du Danemark, convoité par Donald Trump et en proie à une fonte des glaces accélérée. Il est le premier chef d'État étranger à mettre le pied sur ce territoire depuis les menaces d'annexion du président américain. Il faut dire, Youen Madec, que le Groenland dispose de ressources très convoitées.
Oui, l'île dispose notamment d'un souterrain très riche en terres rares, pour l'instant presque non exploitées, et qui ont l'avantage pour les Occidentaux de se trouver en dehors de la sphère d'influence de la Chine, comme l'explique Patrick Martin-Jeunier, spécialiste des questions européennes et internationales.
Le Groenland possède 24 des 35 minerais rares qui sont nécessaires à l'évolution de la transition énergétique. Donc ces minerais rares sont tellement importants qu'ils suscitent l'intérêt naturellement des Américains, mais aussi des Chinois, qui souhaitent investir également.
Et le chercheur le souligne, il y a un autre facteur qui fait du Groenland un territoire très important pour les États-Unis et leurs concurrents, sa position.
Ce territoire est un passage obligé dans cette partie du globe pour aller aux États-Unis, notamment sur le plan commercial, mais également avec des navires militaires, des sous-marins militaires, notamment russes, qui peuvent porter des ogives nucléaires. C'est aussi sur le plan aérien un passage très important.
Et les États-Unis disposent d'ailleurs d'une base militaire active sur l'île depuis la Seconde Guerre mondiale, qui encore aujourd'hui est un maillon essentiel de leur bouclier antimissile. Enfin, Donald Trump table sur l'ouverture de nouvelles voies maritimes commerciales dans la région avec la fonte des glaces.
Yuen Madec pour Europe 1.
Et pendant ce temps, Donald Trump, justement, lui, déploie comme prévu sa grande parade militaire.
Et oui, 7000 soldats, 150 véhicules militaires, une cinquantaine d'avions et des chevaux. La grande parade militaire pour les 250 ans de l'armée américaine s'est terminée il y a quelques heures maintenant. Défilé grandiose, dénoncé par certains vétérans qui estiment que c'est de l'argent gâché. Une parade qui, hasard ou pas du calendrier, s'est déroulée le jour de l'anniversaire de Donald Trump. Il fêtait ses 79 ans.
Et c'est un défilé, Alexis, qui s'est déroulé dans une atmosphère très lourde, puisqu'hier, une élue démocrate a été assassinée.
Oui, tuée par balle avec son mari, tuée à leur domicile. Des centaines de policiers sont actuellement à la recherche du meurtrier, un homme blanc de 57 ans, considéré comme armé et dangereux. Le gouverneur du Minnesota dénonce un acte de violence politique.
On en vient à ce crash du Boeing 787 d'Air India, c'était il y a trois jours, et l'inquiétude ne cesse de grandir autour des avions américains.
Et oui, jeudi dernier, le crash a coûté la vie à 279 personne. Et on apprend dans le Daily Telegraph qu'un Boeing identique à celui de ce crash en Inde a été victime de panne en début d'année, Charles Bouchain.
Oui, il s'agit d'un avion de la flotte d'American Airlines. Ce Boeing 787 a été obligé d'atterrir en urgence à 4 reprises en moins d'un mois. Le 7 janvier dernier, juste après avoir décollé, l'appareil a dû vite revenir à Amsterdam suite à une perte de carburant au-dessus de la mer du Nord. D'autres incidents quelques jours plus tard ont suivi à Dublin, Barcelone et Zurich. Cet avion qui compte plus de 4000 vols en 8 ans souffrirait de problèmes avec ses volets d'ailes, élément essentiel lors du décollage. C'est d'ailleurs ce dysfonctionnement qui pourrait être lié au crash d'Air India ce jeudi. Pour Michel Polacco, spécialiste de l'aviation, rien n'indique en tout cas une défaillance habituelle des volets sur ce modèle.
Le Boeing 787 n'est pas réputé pour avoir des soucis particuliers avec ses volets. Si on les utilise mal, si on oublie de les utiliser ou si on les rétracte trop tôt, ça peut avoir des conséquences. Mais là, c'est une question d'action des opérateurs qui utilisent les avions, des pilotes en l'occurrence, et c'est pas une question de marque ou de modèle d'avion.
Et ces nouvelles informations viennent ternir un peu plus l'image de Boeing. Suite au crash en Inde, l'action du constructeur avait chuté de plus de 5% à la bourse de New York.
Charles Bouchain, et puis c'est à souligner Boeing qui a annulé dans ce contexte sa visite au salon du Bourget. Le salon spécialisé dans l'aviation commence demain.
Allez, direction Marseille à présent, Alexis, où la drogue n'est pas le seul produit de contrebande ciblé par les forces de l'ordre.
Oui, il y a un produit plutôt inattendu qui submerge les douanes. Il s'agit de miel aphrodisiaque, du miel érectile, un produit aussi illégal que dangereux qui nous vient tout droit de Thaïlande ou de Malaisie. Le reportage à Marseille, du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
Dans la lutte face à la contrebande qui pullule dans le centre-ville, après les paquets de cigarettes et les stupéfiants, le directeur adjoint des douanes, Emeric Atamanyouk, voit arriver de tout nouveaux produits.
On a beaucoup de constatations, par exemple, sur du miel érectile. Vous savez, c'est une sorte de miel adultéré qui contient des substances qu'on va retrouver dans le Viagra, etc., qui normalement devraient être vendues comme un médicament et qui sont vendues à la sauvette par des commerçants peu scrupuleux. C'est marginal, mais il y en a quand même.
14 tonnes de ce miel aphrodisiaque ont par exemple été saisies sur le port maritime l'année dernière dans un conteneur en provenance de Malaisie. Les produits qui proviennent aussi de Thaïlande, d'Espagne ou de Belgique se présentent sous la forme de sticks et sont vendus par correspondance ou bien directement dans certains commerces. Les autorités sanitaires émettent des alertes. D'autres régions sont également touchées comme l'Île-de-France, le Grand Est ou encore Auvergne-Rhône-Alpes où les douaniers ont mis par exemple la main sur 25 000 doses l'été dernier. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Dans l'actualité également, ce nouveau coup dur, Alexis, pour Nicolas Sarkozy.
Oui, l'ancien chef d'État français n'est plus chevalier de la Légion d'honneur. La plus haute décoration honorifique française lui a été retirée après sa condamnation pour corruption dans l'affaire des écoutes. Il est aussi exclu de l'Ordre national du mérite. Deux exclusions lourdes de symboles, mais automatiques lors d'une condamnation supérieure ou égale à un an de prison ferme.
Et puis un mot également de cette noyade.
Et oui, deux adolescents de 14 et 15 ans retrouvés morts noyés hier dans la Loire près de Saint-Étienne. Ils se baignaient dans une zone interdite d'accès. Le premier est décédé en tentant de sauver le second qui peinait à regagner la rive. Un drame qui rappelle en cette période de forte chaleur que la baignade comporte des risques, écrit le préfet du département sur les réseaux sociaux.
Dans le reste de l'actualité, c'est un devoir de mémoire. 80 ans après la chute de l'Allemagne nazie, en Nouvelle-Aquitaine, un chemin de la mémoire vient d'être inauguré.
Un parcours inédit pour honorer la mémoire des victimes des SS, pour comprendre et transmettre aussi l'histoire aux jeunes générations. Ce chemin de la mémoire est ludique, jalonné de balises et QR codes. Il traverse 5 départements sur près de 400 km, de la Corrèze jusqu'au Lot-et-Garonne. Stéphane Place a assisté à l'inauguration pour Europe 1.
Devant la gare de Pendagenet, d'où sont partis le 30 mai 44 les 1200 résistants déportés à Dachau, un pavé noir doté d'un QR code qu'il suffit de flasher pour déclencher sur l'écran de son smartphone le récit et les informations sur ce parcours de feu et de sang de la sinistre division SS d'Asreich.
Ils ont raflé et déporté tous les hommes du village.
Ils ont pillé ma maison.
Ils sont partis en flammes.
Ils m'ont tué.
À l'origine de ce dispositif de jalon, l'association La Mémoire en Chemin, présidée par Maurice Commière.
Une volonté de notre part d'essayer de toucher les jeunes générations. Il n'y a pas que Oradour, il n'y a pas que Tulle. Il y a tout un parcours sanglant. 72 sites impactés par la barbarie nazie.
Tom est élève de 3e au collège de Pendagenet.
C'est assez bouleversant de se dire qu'à quelques pas de chez nous, à Ace et à la gare de Penn, le wagon du souvenir, chez nous ou à proximité, il y a eu des crimes.
Un jalon et son QR code inauguré à côté du mémorial de la gare et du wagon du souvenir, sous les yeux de Jean Laforie, résistant et déporté à Dachau.
Pour entretenir cette mémoire qui aurait tendance peut-être à s'effacer si on ne faisait pas tout ça.
Pendagenet, Stéphane Place, Europe 1.
Allez, on conclut ce journal avec une page sportive et cette toute nouvelle compétition voulue par la FIFA, c'est la Coupe du Monde des clubs.
Oui, une de trop, hein, diront certains. 32 équipes vont s'affronter au total, des équipes européennes mais aussi brésiliennes, japonaises, coréennes et un seul club parmi tout ça français, Paris. Parisiens tout juste sacrés champions d'Europe, hein, qui ont soulevé la Ligue des Champions, se sont envolés pour les États-Unis à Los Angeles où se déroule cette compétition. Paris affronte ce soir à 21h l'Atlético Madrid de Griezmann. Un mot de rugby, oui aussi, puisque Toulon rejoint l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, en demi-finale de top 14 après sa victoire face à Castres hier. Le score est écrasant, 52-23. Et puis l'autre affiche de ces demi-finales, on la connaît, c'est Toulouse face à Bayonne. Et puis un mot des 24 heures du Mans, ça continue aujourd'hui après 15 heures de course. Eh bien, c'est Ferrari qui est en tête pour l'instant.
Et c'était le journal d'Alexis de la Fléchère. Merci beaucoup Alexis. Anthony, à 7h13 sur Europe 1, vous nous dites qu'il fait encore très chaud dans le sud-est. Il va faire très chaud.
Et il fait déjà très chaud ce matin. La nuit a été irrespirable. On parle de nuit tropicale quand les températures ne baissent pas en dessous de 20 degrés. Et c'est le cas ce matin. On a déjà 25 degrés du côté de Nice, 23 à Toulon. Mais ailleurs, ça a bien baissé par rapport à hier. C'est beaucoup plus respirable. 18 à Paris actuellement, 16 à Lille et à Bordeaux. Et même 9 petits degrés en Bretagne du côté de Brest. Cet après-midi, les températures baissent encore. On reste globalement un peu au-dessus des normales de saison et ça restera très très chaud encore dans le sud-est. Voici quelques valeurs attendues au meilleur de la journée. 18 degrés du côté de Cherbourg et de Boulogne-sur-Mer, 19 à Brest ou encore à Saint-Giron, vous aurez 21 degrés à Biarritz, à Caen mais aussi à Percy, dans l'Indre par exemple, 23 à Paris, à Toulouse et à Reims, 24 à Lille, à Bordeaux, à Montargis, 26 degrés à Strasbourg, 29 à Nice, 31 degrés à Grenoble, 33 à Marseille et jusqu'à 38 degrés dans le Var, par exemple, entre Fréjus et Saint-Tropez.
Et alors attention, parce qu'il y a toujours des orages.
Oui, des orages sur un axe sud-ouest, centre-Val de Loire, frontière de l'Est. Et cet après-midi, ces orages risquent encore d'être forts.
fort sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais dans toutes les autres régions, ce sera beaucoup plus calme, avec souvent une alternance entre nuages et éclaircies. Éclaircies de plus en plus belles sur le quart nord-ouest dans l'après-midi, malgré un tout petit risque d'averse sur l'Île-de-France. Et puis sous la chaleur du sud-est, là aussi vous aurez du soleil, malgré quelques passages nuageux et une tramontane à 60 km à l'heure en rafale.
Merci Anthony, vous restez bien avec nous sur Europe 1, il est quasiment 7h15, dans un instant. Papa, fête des pères, vous avez compris l'astuce.
Ah bah oui.
Anthony, c'est Mathieu Alterman qui revient sur les papas dans la chanson et donc dans le cinéma. Et puis juste avant lui, Maître Roland Pérez, ai-je le droit de me faire rembourser un billet d'avion ou un billet de train si j'ai manqué le départ? À tout de suite sur Europe 1.
La semaine prochaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1.
Une semaine exceptionnelle.
Venez rencontrer vos animateurs.
Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez.
Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses et célébrez les succès d'Europe 1.
Entrez dans la grande famille Europe 1. Pour en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr.
Rubrique Le Club Europe 1.
Pour vendre, acheter, louer ou gérer votre bien immobilier, vous vous adressez à qui?
À Guy.
Qui?
Guy.
Ok. Guy Hoquet, l'immobilier.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990 euros. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Europe 1 Matin Weekend, 6h-9h. Lénaïque Monnier.
Dans un instant, nous retrouverons Mathieu Alterman pour parler ce matin. Mathieu.
Fête des pères, donc je vais vous parler des papas au cinéma et dans la chanson.
J'avais failli oublier. On retrouve Roland Pérez avant cela. Bonjour Roland.
Bonjour.
Et alors, on continue à parler des vacances. Ça concerne beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 matin, week-end. On va se demander ce qui se passe si on manque notre train, notre avion. Avons-nous le droit de nous faire rembourser? Et pour commencer, Roland, est-ce qu'il est possible de se faire rembourser d'un billet de train si on a raté le départ?
Alors, je ne peux pas vous répondre oui et non, parce que évidemment, il y a des petites règles à connaître. En général, la politique de remboursement dépend du type de billet que vous avez acheté. Si vous avez acheté un billet flexible ou échangeable, c'est marqué dans votre réservation SNCF notamment, vous pourrez être en mesure de le changer pour un autre train ou de recevoir un remboursement. Parfois, on va vous retenir quelques frais. Mais si c'est par exemple des billets qu'on appelle des billets PREMS de la SNCF, là, eh ben, ils sont très intéressants au niveau prix, mais ils sont totalement non échangeables ni remboursables, alors que si vous prenez un billet pro, ils sont plus flexibles. Quand on part, on pense toujours qu'on partira. On pense toujours qu'on sera à l'heure à la gare.
On pense jamais à l'imprévu.
On pense jamais qu'on va être en retard, qu'il va y avoir des bouchons, même si on part très tôt, ou que le métro va s'arrêter là en pleine rame avec notre valise.
Il y aura une grève à la SNCF surprise.
Alors la grève, c'est
un peu autre chose. La grève.
Là, c'est encore autre chose.
On reçoit un SMS.
Oui.
Et puis normalement, là, vous êtes remboursé. Mais quand on prend ces billets, parce que c'est très intéressant, on les prend longtemps
à l'avance,
il faut penser à ça, il faut que vous ayez cet aléa en présence.
Donc on fait attention au type de billet qu'on achète. Oui. Roland, est-ce que vous avez un exemple concret d'un cas de remboursement de billet de train par exemple?
Alors Christophe, je sais qu'il prend toujours des billets Ouigo, qui est une option économique de la SNCF. Oui. Il va manquer son train parce qu'il met un temps fou pour se préparer le matin, notre ami Christophe.
Oui.
Il est coincé dans un embouteillage imprévu. Eh bien son billet, mon cher Christophe, n'est ni échangeable ni remboursable. S'il avait pris comme notre ami Mathieu un billet TGV inouï, comme l'est lui-même Mathieu, avec une option de flexibilité, là, il aurait pu l'échanger pour
c'était
un train plus tard
mais
dans la journée.
Toujours moins, lui, il part.
Voilà. Et ben là, il peut le changer. Voilà. Il peut partir un peu plus tard dans la journée. Et là, c'est sans frais.
Et alors, pour les avions, Roland?
Alors, pour les billets d'avion, la politique est souvent plus stricte. Si vous manquez votre vol sur une compagnie low cost, là encore, on peut strictement rien faire, sauf si vous avez pris une assurance ou si vous avez votre fameuse carte bancaire dont on parlait hier pour la réservation de vos voyages. Là, a priori, l'assurance peut éventuellement jouer, mais il faut quand même regarder si elle prend l'imprévu du retard, parce que généralement, ils vous couvrent pour une maladie, ils vous couvrent pas parce que vous êtes en retard.
Alors, vous avez pris
quand même le problème des petites lignes.
Vous avez pris Christophe.
On les lit jamais.
On le rappelle tout le temps avec Roland. Vous avez pris Christophe en exemple pour le train. Est-ce que vous avez un exemple avec Mathieu pour l'avion?
Oui, et ben évidemment, si Mathieu il va prendre un vol avec EasyJet par exemple, je pense à cette compagnie qui est une compagnie très connue et qui est low cost comme Transavia aussi. Eh bien, je sais qu'il rêve d'aller à Barcelone très prochainement, mais il rate son vol à cause d'un retard de transport en commun. Là, aujourd'hui, son billet sera encore une fois non remboursable. S'il avait réservé avec une compagnie traditionnelle comme Air France ou Air Italia, eh bien là, il aurait pu modifier son vol sans difficulté.
Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des cas quand même, Roland, où même des billets non remboursables peuvent être remboursés? Eh ben on vous demande l'impossible.
Hein, mais... Évidemment, s'il y a une pandémie, s'il y a une grève dont parlait Christophe tout à l'heure, s'il y a une impossibilité des conditions météorologiques qui font que votre vol ou que votre train ne pourra finalement voyager, là, il n'y a pas de difficulté. Vous serez intégralement remboursé.
Un petit conseil pour la route, Roland?
Oui, alors, on privilégie l'achat des billets avec des options de changement ou de remboursement. Ils sont souvent plus coûteux à l'achat, mais cela offre vraiment une tranquillité d'esprit. Et puis, on vérifie vraiment bien les temps de trajet en essayant d'arriver à l'avance. Et puis, regardez du côté de l'assurance voyage, regardez si ça ne couvre que les maladies ou des problèmes personnels ou familiaux. Est-ce que ça peut couvrir aussi le problème du retard?
Eh bien, merci beaucoup, Roland, europe1.fr pour réécouter vos conseils. Et puis, vous restez là juste après le journal permanent. Mathieu Alterman, vous nous parlez
des papas, puisque c'est la fête des pères, donc les papas au cinéma et dans la chanson.
Eh bien, à tout de suite, Mathieu. Vous écoutez Europe 1, il est 7h20.
Europe 1. Le journal permanent.
Présenté par Alexis de la Fléchère.
Entre l'Iran et Israël, les échanges de tirs se poursuivent. 8 personnes sont décédées à la suite des tirs de missiles iraniens ce matin sur le centre d'Israël et la région ouest de Jérusalem. Bilan très provisoire, il y a aussi des centaines de blessés. L'État hébreu annonce avoir répliqué en visant le ministère de la Défense iranien, légèrement endommagé, mais aussi des dépôts de carburant à Téhéran. Et dans ce contexte très tendu, Emmanuel Macron appelle l'Iran à revenir à la table des négociations concernant son programme nucléaire. La solution diplomatique est l'unique solution pour une désescalade, ajoute le président sur les réseaux sociaux. Le président de la République qui s'envole aujourd'hui pour le Groenland, il sous tutelle danoise, mais convoité, menacé d'annexion depuis des mois par Donald Trump. Aux États-Unis, une élue démocrate du Minnesota et son mari tués par balle à leur domicile. Des centaines de policiers sont à la recherche du meurtrier, un homme blanc de 57 ans, considéré comme armé et dangereux. Le gouverneur du Minnesota dénonce un acte de violence politique. En France, Nicolas Sarkozy officiellement exclu de la Légion d'honneur ainsi que de l'Ordre national du mérite. Une décision qui fait suite à sa condamnation devenue définitive à un an de prison ferme pour corruption dans l'affaire des écoutes. Et puis un mot de rugby. Toulon rejoint l'UBB en demi-finale de Top 14 après sa victoire face à Castres hier. Victoire écrasante, 52-23.
Merci Alexis. Dans un instant, l'iconique Europe 1 sera consacré à Barry White. Évidemment, vous avez reconnu hein, Anthony Kaczmarek, forcément cette voix unique. Mais d'ici là, évidemment, c'est la pop culture.
Europe 1 matin week-end.
6h, 9h, Lénaïque Monnier.
Et l'info qui reviendra également sur Europe 1 avec elle. Le journal de 7h30, Alexis de la Fléchère vient de l'évoquer. Les enjeux de la visite d'Emmanuel Macron au Groenland, on va vous en reparler. Mais entre-temps, donc, j'accueille Mathieu Alterman. Bonjour Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Pour parler des papas au cinéma et dans la chanson.
Oui, aujourd'hui c'est la fête des pères. Bonne occasion pour revenir sur les films et chansons directement adressés à nos géniteurs, ou tout du moins où ils y sont le personnage clé. Alors commençons par le cinéma, où longtemps la figure du père fut un tantinet autoritaire, tel Louis de Funès dans Oscar.
Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux, voilà.
Mais pourquoi? C'est gentil, un gros canard.
On n'appelle pas son père comme ça.
Oh, mais t'es vieux Jean, papa.
Oui, nous ne sommes pas vraiment dans le rôle du père copain, non. Mais on adore. Toujours dans le registre de la comédie, mais en nettement plus ouvert socialement, Les compères de Francis Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu.
On le recherche, il a fait une fugue.
Des flics?
Non, c'est mon fils.
Les péripéties des deux héros se croyant mutuellement le père d'un adolescent en fugue sont jouissives et n'ont pas pris une ride depuis 1983 et la sortie au cinéma. Gérard Depardieu sera un vrai papa dans Mon père, ce héros, en 1991, aux côtés de Marie Guilin, et il faut revoir ce très joli film.
Sur le gâteau, moi ce que je préfère c'est la cerise.
Enfin, dans un registre dramatique, The Father de Florian Zeller, sorti en 2020 avec un Anthony Hopkins touché par la maladie d'Alzheimer, est absolument sublime d'émotion et remarquablement bien mis en scène avec 200 prix et nominations à travers le monde.
Alors, on aurait pu citer des dizaines d'autres films à Mathieu, mais il y a aussi de nombreuses chansons pour les papas.
Oui, de très belles si l'on en juge par cette sélection, du triste avec Barbara et Nantes sur ses retrouvailles avec un père déjà mort.
Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je
Un morceau totalement autobiographique et qui fut le premier grand succès de la longue dame brune en 1964. 10 années plus tard, une autre chanson que l'on crut longtemps autobiographique, alors que pas du tout puisqu'il s'agit d'une reprise, c'est Mon vieux par Daniel Guichard.
J'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.
La force de son interprétation est si puissante que nombreux sont les enfants devenus grands et qui ont reconnu leur père. Jean Gabin en tête était fan de cette chanson. Alors dans un style radicalement différent, Papa Don't Preach de Madonna. Roland s'est mis à danser subitement. Oui. Voilà. Le texte évoque une adolescente enceinte désirant garder son bébé et qui se confie à son père, un sujet ô combien sérieux pour un tube aussi dansant, tout aussi sérieux mais orchestré comme tel. Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero qui nous parle de la douloureuse absence du père.
J'ai qu'une prière à lui adresser, si seulement je pouvais.
Et alors Mathieu, il existe aussi à l'inverse, les chansons de pères parlant de leur enfant.
Oui, pour de très belles choses également, Claude Nougaro en fut l'initiateur avec Cécile ma fille en 1963.
Et te voilà, Cécile ma fille.
Tout le monde craque, standard instantané en 1976, c'est Stevie Wonder qui nous offre un joyau. Isn't She Lovely, écrit et composé pour la naissance de sa fille Aïcha, et c'est bien elle la plus belle, écoutez. Rappelons-nous également de cette merveilleuse mélodie composée par Alain Chamfort en 1979 et dont le texte évoque sa fille Clémentine. C'est tout doux, c'est précieux. Enfin, une pensée ce matin pour Brian Wilson, le leader des Beach Boys, qui vient de nous quitter et composait Child is Father of the Man, l'enfant est le père de l'homme, en 1967. Bonne fête des pères à tous, pensez à celles et ceux qui n'ont plus le leur et savourez ces moments en famille lorsqu'ils sont possibles. Bon dimanche.
Bon dimanche Mathieu.
Et à 7h26 sur Europe 1, comme chaque dimanche, on vous propose de redécouvrir un titre qui a marqué l'histoire d'Europe 1. Aujourd'hui, voici Barry White, Let the Music Play. C'est évidemment un iconique Europe 1.
One ticket please. Almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
C'était Barry White, Let the Music Play, iconique Europe 1, un titre qui a marqué l'histoire d'Europe 1 en 1975.
Europe 1 Matin Week-end.
6h-9h.
Lénaïque Monnier.
Et vous commentez l'actualité, vous réagissez aux interviews, aux chroniques sur la page Europe 1 Matin Week-end. Il est 7h30 et il est l'heure d'accueillir Théo Grévin pour un nouveau journal. Bonjour Théo.
Bonjour Lénaïque et bonjour à tous.
À la une de votre journal, il est le premier chef d'État étranger à se rendre au Groenland depuis les menaces d'annexion de Donald Trump. Emmanuel Macron est attendu sur l'île aujourd'hui. L'occasion d'adresser un message de fermeté, vous l'entendrez. Frappe d'Israël sur l'Iran, riposte de Téhéran. Les heures se suivent et se ressemblent au Moyen-Orient. Malgré les appels à la retenue, la spirale meurtrière s'accélère. Et puis J-1 avant le lancement du bac 2025, l'heure des dernières révisions avant l'épreuve de philo. Voilà pour les titres, Théo, de votre journal que nous allons développer après la tendance météo, Anthony Kazmarek.
Des orages encore ce dimanche entre le sud-ouest, le centre et les frontières de l'est. Orages parfois forts en Rhône-Alpes et en plaine d'Alsace. Ailleurs, c'est plus calme et les températures baissent, parfois assez fortement, sauf près de la Méditerranée.
Et météo complète à la fin du journal.
Europe 1.
Et à la une de votre journal, donc Théo, le Groenland n'est pas à prendre. Emmanuel Macron est attendu sur place en début d'après-midi.
Message répété à de nombreuses reprises par le chef de l'État ces dernières semaines. Et pour cause, depuis des mois, Donald Trump entend annexer ce territoire autonome du Danemark, grand comme quatre fois la France. Alors avant de se rendre au Canada pour y retrouver le président américain à l'occasion du G7, Emmanuel Macron compte bien répondre à son homologue Jacques Serret.
Après avoir martelé ce message lors du sommet consacré aux océans à Nice,
les abysses ne sont pas à vendre. Pas plus que le Groenland n'est à prendre. Pas plus que l'Antarctique ou la haute mer ne sont à vendre.
Emmanuel Macron va s'afficher ce dimanche aux côtés du Premier ministre groenlandais et de la Première ministre danoise. Une manière on ne peut plus claire de soutenir la souveraineté de ce pays du royaume du Danemark. Il s'agit de démontrer par sa présence la solidarité européenne, décrypte l'un de ses proches. Sa venue est une réaffirmation des principes de la Charte des Nations Unies, poursuit le même. Le président y rappellera que la France soutient l'intégrité territoriale et l'inviolabilité des frontières du Groenland. Un signal envoyé à Donald Trump qui convoite très sérieusement ce qui constitue la plus grande île du monde. Pour autant, l'Élysée indique qu'il ne faut pas y voir une dimension personnelle avec le locataire de la Maison-Blanche. Et pour cause, Emmanuel Macron retrouvera Donald Trump ce soir au Canada pour participer au sommet du G7.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Donald Trump qui organisait cette nuit sa grande parade militaire, chars, hélicoptères, un défilé pour célébrer les 250 ans de l'armée américaine à une date qui coïncide, hasard du calendrier ou non, avec le 79e anniversaire du président américain. Fête ternie toutefois par les manifestations anti-Trump qui se poursuivent dans le pays. Cette nuit, des milliers de personnes se sont réunies à Los Angeles. Les manifestants proteste depuis une semaine contre la politique migratoire du président américain.
Une journée ternie également par le meurtre d'une élue de l'État américain du Minnesota, tuée par balle, tout comme son époux.
Melissa Ortman, élue démocrate, le suspect qui s'est présenté à leur domicile habillé comme un membre des forces de l'ordre est activement recherché. Plusieurs centaines de policiers sont mobilisés et le FBI promet $50,000 à toute personne qui fournirait des informations. Rémi Amalvi, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. On en sait un peu plus sur le profil du tireur.
Oui, il s'appelle Vince Bolter, il a 57 ans et il gère avec sa femme une compagnie de sécurité privée nommée Praetorian. Il travaillait auparavant à l'étranger, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, toujours dans la sécurité privée. Il est décrit par les autorités comme dangereux et probablement armé. Il s'était déguisé en officier de police avant de s'en prendre à ses victimes et les enquêteurs ont trouvé plusieurs armes, dont des fusils, dans le véhicule qu'il a laissé derrière lui. Samedi, vers 2h du matin, heure locale, il s'est d'abord rendu au domicile du sénateur démocrate John Hoffman, sur qui il a ouvert le feu, ainsi que sur sa femme. Tous deux ont survécu à l'attaque et ont été transportés à l'hôpital par la police. Police qui est ensuite allée vérifier par précaution le domicile de Melissa Ortman avant de tomber nez à nez avec le tireur qui venait tout juste de tuer l'élu et son mari. Les forces de l'ordre ont échangé plusieurs coups de feu avec Bolter, mais ce dernier a réussi à s'enfuir. Pour l'instant, ses motivations ne sont pas connues, mais pour le gouverneur du Minnesota Tim Walz, il s'agit d'un assassinat politique. Melissa Ortman était la chef de file des démocrates au congrès local. En 2023, elle avait notamment œuvré pour renforcer et protéger le droit à avorter dans son état. Son nom est celui de John Hoffman, figuré sur une liste de noms d'élus retrouvés dans la voiture du tueur. Tous se sont justement ouvertement prononcés en faveur de l'avortement.
Les précisions de Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Pour la deuxième nuit d'affilée, Israël et l'Iran ont poursuivi leur frappe.
L'escalade se poursuit avec une nuit particulièrement agitée. 10 personnes sont décédées en Israël. Plus d'une centaine ont été blessées. Dans le même temps, plusieurs dirigeants, dont Emmanuel Macron, appellent l'Iran à revenir à la table des négociations concernant son programme nucléaire. Donald Trump affirme de son côté qu'un accord entre Israël et l'Iran peut être facilement conclu. En attendant, l'ambassadeur d'Israël en France réaffirme le souhait de son pays de mettre à terre les infrastructures nucléaires iraniennes.
Notre but est de nous débarrasser complètement des capacités nucléaires militaires iraniennes et de nous débarrasser complètement des capacités militaires qui leur permettraient de menacer notre existence. Le régime comme tel n'est pas notre but. Ça doit être le but des Iraniens. Si le régime tombe, ça ne sera que la meilleure chose pour les Iraniens eux-mêmes, pour la stabilité de la région, pour la paix dans la région. Parce que sans les Iraniens, il y aurait la paix entre tous les pays de la région. C'est eux qui sèment la zizanie, c'est eux qui essayent de faire en sorte qu'il y ait des tensions, parce que c'est un régime qui se définit comme un régime révolutionnaire qui a pour but de changer la situation sur le terrain.
L'ambassadeur d'Israël en France dans Europe 1 Soir Week-end, l'Hexagone, où les préfets vont devoir accroître la vigilance, notamment sur les lieux de culte, consigne donnée par Bruno Retailleau.
Nicolas Sarkozy, lui, se voit retirer sa Légion d'honneur.
L'arrêté a été publié en pleine nuit au journal officiel, décision qui intervient après la condamnation de l'ancien président de la République dans l'affaire des écoutes. En avril dernier, Emmanuel Macron affirmait pourtant que retirer cette distinction à Nicolas Sarkozy ne serait pas une bonne décision. Notez qu'à 10h, Hervé Morin, le président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
On en vient à cette psychose qui s'installe autour des avions conçus par Boeing avec les nouvelles révélations après le crash d'un de ces avions en Inde.
Le vol 171 d'Air India ayant causé jeudi la mort de 241 des 242 occupants. Et on apprend dans le Télégraphe qu'un autre Boeing 787, identique à celui du crash, a déjà été victime de panne en début d'année. Il avait dû réaliser des atterrissages d'urgence à 4 reprises, notamment après avoir largué du carburant au-dessus de la mer du Nord.
Et c'est dans ce contexte tendu pour le constructeur américain que s'ouvre demain à Paris le Salon aéronautique du Bourget.
La 55e édition d'un rendez-vous incontournable du secteur. Le patron de Boeing a d'ores et déjà annoncé qu'il annulait sa venue. À cette actualité, il faut ajouter les tensions commerciales autour des droits de douane, mais aussi les difficultés pour la filière de se remettre en ordre de marche après les ravages du Covid et les retards de livraison qui s'accumulent, Aurélien Fleureau.
Plusieurs dizaines d'Airbus sont en attente d'être livrés. Les compagnies aériennes piaffent d'impatience pour renouveler leur flotte ou augmenter leur rotation. Mais voilà, chaque petit grain de sable met tout à l'arrêt, comme l'explique Jérôme Bouchard, spécialiste aéronautique du cabinet Oliver Wyman.
Un avion, c'est à peu près 1 million de pièces. Bien sûr, un avion ne peut pas quitter sa zone de production sans avoir ce 1 million de pièces au complet et correctement montées.
Il manque parfois des moteurs, les fabricants ne sont pas nombreux et les problèmes d'approvisionnement sont loin d'être résolus. Il manque aussi des toilettes. Cela peut surprendre, mais cela s'explique.
C'est vrai que ça peut paraître extrêmement trivial, mais là aussi, nous sommes dans un avion. Des toilettes ont besoin d'être certifiées. Les toilettes d'un avion n'ont malheureusement rien à voir avec nos toilettes à la maison. Elles sont technologiquement beaucoup plus compliquées.
Et cela concerne surtout les A350, des contretemps fâcheux, mais Airbus se veut optimiste. L'objectif de livrer 820 appareils cette année reste d'actualité.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
J-1 avant le début du bac, dernières heures de révision.
Le compte à rebours est lancé, demain place à la redoutée dissertation philosophique. Alors comment aborder sereinement cette épreuve ? Eh bien pas de secret, il faut continuer à réviser. C'est en tout cas la méthode de ces deux élèves du lycée Blanche de Castille au Chénéreux Concours dans les Yvelines, rencontrés par Laura Laplot pour Europe 1.
Ça doit faire environ 20 lignes l'introduction.
Ouais, c'est ça, bah, c'est une page.
Faut pas qu'on s'entraîne.
À l'approche du grand saut, ils ont encore le sourire. Antoine et Benjamin ont 17 ans et ce week-end, pas de fête, pas de grasse mat, c'est philo à plein régime.
Je pense que c'est important de réviser, on peut pas y aller comme ça, 1, 2, 3, let's go et ça marche, c'est pas de la magie.
Habitués aux bonnes notes, ils visent tous les deux la mention très bien. Alors ils peaufinent leurs fiches, s'interrogent sur les 17 notions au programme et ils ont tous les deux une préférence pour l'explication de texte.
C'est un exercice où déjà il y a moins besoin de travailler et Et aussi, la méthode compte beaucoup. Donc déjà, si on a une bonne méthode, ça nous permet d'assurer une bonne structure et donc une bonne note aussi.
Et s'il pouvait choisir la notion le jour de l'examen, il n'hésite pas une seconde.
La liberté et la vérité, un petit mix des deux, ça me plairait bien. Moi, j'aimerais beaucoup tomber sur la science et la vérité aussi, parce que c'est un thème qu'on a beaucoup abordé au début de l'année.
Confiant pour lundi, oui, mais la vraie pression, elle est pour la suite. Les épreuves de spécialité maths et physique, programmées mardi et mercredi.
Il y a la caverne de Platon aussi.
Le reportage Europe 1 de Laura Laplot à la veille du baccalauréat. Et puis un mot de sport et de football avec cette toute nouvelle compétition voulue par la FIFA, la Coupe du Monde des clubs. 32 équipes qualifiées et un seul club français, Paris, qui se déplace aux États-Unis ce soir pour affronter l'Atlético Madrid à 21h.
Et c'était le journal de Théo Grévin. Merci Théo. 8h-20 sur Europe 1 et Anthony Kazmarek, on continue à surveiller les orages. Hein.
Exactement, j'ai échangé avec Météo France au téléphone tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de vigilance orange pour ces orages. Mais ce sera à surveiller. Et voici quand même les zones où ces orages risquent d'être les plus violents cet après-midi. Sans doute vers la région lyonnaise, vers les Alpes, vers la vallée du Rhône et peut-être la plaine d'Alsace. Voilà pour les infos que j'ai pu glaner tout à l'heure. Infos que vous ne trouvez pas sur les applications météo. Hein, certaines valent.
C'est pour ça qu'on est content de vous avoir. C'est précieux.
Certaines valent à peine leur pesant de cacahuètes. Hein, donc c'est pour ça que je me permets de vous donner quelques informations complémentaires. Mais ces orages, on les retrouve déjà ce matin dans le sud-ouest, vers les Pyrénées, vers la Bourgogne. Ils sont beaucoup moins forts qu'hier. Dans les autres régions, ce sera beaucoup plus calme avec quelques éclaircies ce matin déjà sur le quart nord-ouest et puis du soleil aussi près de la Méditerranée et surtout en Corse hein, parce qu'entre le Languedoc-Roussillon et la Provence, il y aura quelques passages nuageux avec une tramontane à 60 km/h en rafale.
Et alors on respire hein, presque partout,
oui,
enfin.
Sauf dans le sud-est hein, où là la chaleur résiste. Vous aurez cet après-midi 33 degrés à Marseille, à Bastia et des pointes entre 35 et 38 degrés dans le Var, 29 à Perpignan, 27 à Lyon. Mais ailleurs, on repasse quasiment partout sous les 25 degrés, donc sous le seuil de chaleur. 24 à Lille, à Bordeaux et à Saint-Étienne, 23 à Paris et à Toulouse, 22 à Clermont-Ferrand, 21 à La Rochelle, 19 à Brest et 18 à Boulogne-sur-Mer.
Merci Anthony, vous restez bien avec nous. Dans un instant sur Europe 1, Paris s'il est sorti. Nicolas Caro, Sébastien Bordenave arrivent avec leurs conseils romans et BD. Et puis Laura Tenoudji, en ce jour de fête des pères, nous parlera des pères influenceurs. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
On en parle.
Comment faire des économies en optant pour la mobilité électrique? On en parle dans un instant avec Camille, conseillère EDF.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Parfois grand c'est vaste, parce que parfois grand c'est énorme, et parfois énorme c'est immense. Mais parfois grand c'est juste grand, et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Nouveau Dacia Bigster, grand coffre, grande autonomie moteur hybride et petit prix. Dacia Bigster à partir de 24 990 euros est maintenant disponible en motorisation GPL. À découvrir durant les portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Prix conseillé pour l'achat d'un Dacia Bigster Essential Mild Hybrid 140, 9 hors option selon tarif du 3 juin 2025. Conditions sur Dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1 matin week-end, 6h-9h. Lénaïque Monnier.
Europe 1 matin week-end qui continue. Dans le journal de 8h, nous serons en direct à Tel Aviv avec le correspondant d'Europe 1 pour faire le point sur cette nouvelle nuit de tension entre l'Iran et Israël. Mais avant cela, il est temps pour moi d'accueillir mes camarades de par ici, les sorties, mes camarades de l'actualité culturelle, Nicolas Caro, Sébastien Bordenave et Laura Tenoudji. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Lénaïque.
Nicolas qui nous propose ce matin un recueil de nouvelles.
Oui, de Ben Chatuck. Il publie chez Albin Michel La forme et la couleur des sons. Une douzaine de nouvelles, toutes liées entre elles. Titre étrange et beau, La forme et la couleur des sons. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui.
C'est le titre de la première nouvelle, justement. On est en 1984 à Cambridge, Massachusetts. Mais c'est un vieux monsieur qui parle lyonnais. Il avait 17 ans, 1916, nous dit-il, quand il a rencontré David. Il est un peu connu, lyonnais. Il a publié des livres sur la musique traditionnelle américaine. Il passe à la télé et tout. Il a l'oreille l'oreille absolue. Et surtout, il voit et il sent les sons. Le ré à goût de lait, le do, une cerise sucrée, jouer un si mineur, un peu faux en sa présence, et une amertume cireuse lui remplira la bouche. Ça peut être aussi des couleurs.
Et en 1916 alors ?
En 1916, à ce moment-là, il vient de sortir du conservatoire de Nouvelle-Angleterre. Il est au pub avec des amis et c'est là qu'il voit David. Il joue du piano, ça lui rappelle une chanson que jouait son père quand il était enfant dans le Kentucky. Alors il s'approche, ça l'intrigue, ils font connaissance et une histoire commence. Mais l'Amérique entre en guerre, David part en Europe, Lionel reste à cause de sa mauvaise vue. Le temps passe et David revient et il propose à Lionel de l'accompagner puisqu'il est chargé de collecter des chansons traditionnelles dans le Maine, les enregistrer sur un phonographe et c'est parti pour un voyage poétique, sonore, harmonieux et un peu mélancolique. Les autres nouvelles se passent à d'autres époques, dans d'autres contrées, mais il y a un lien, même ténu. Il est sorti début avril. J'ai mis un peu de temps à l'ouvrir, mais j'étais très curieux parce que tous ceux qui l'avaient lu avaient l'air comme envoûtés. Et effectivement, ça résonne longtemps.
Vous avez l'air envoûté encore, hein. Vous n'êtes pas tout à fait sorti de ce livre-là. La forme et la couleur des sons de Ben Chatuk, traduit par Héloïse Esquier. Merci Nicolas. Alors Sébastien, vous avez une BD plutôt émouvante ce matin, voire très émouvante.
Ah oui, elle est publiée chez Glénat, l'autrice c'est Maëlle Réa et la BD s'appelle Blanche. Alors. Elle raconte l'histoire de Blanche, c'est la vie d'une aide-soignante courage, pléonasme. Dans la BD, la fille de Blanche s'appelle Maëlle. Bah, comme l'autrice de la BD, on peut donc en déduire qu'on est dans le registre de la biographie romancée. Blanche raconte à sa vie à sa fille. Cette dernière va comprendre pourquoi sa mère a une double manie, celle de collectionner les anges et celle de tout nettoyer à fond, tout le temps, compulsivement. Quand Blanche a eu 20 ans, elle a appris qu'elle était porteuse du VIH. Dans la foulée, on lui annonce qu'il lui reste, en fonction des connaissances scientifiques de l'époque, 5 ans à vivre, ça fiche un coup. Blanche nous replonge dans ces temps pas si anciens où ce virus était, j'ouvre des guillemets, un truc de dépravé, un virus où quand on en mourait, la famille préférait dire cancer plutôt que sida, où le traitement c'était 14 pilules par jour. Blanche va vouloir des enfants, elle va collectionner du coup des anges partout chez elle pour leur demander que le virus ne se transmette pas à sa descendance. C'est vrai qu'avec le recul, la sérophobie de notre société a été folle. Pas loin d'aller dans des temps très très anciens, hein. Les soins funéraires aux séropositifs ne sont autorisés que depuis 2018. Oh. Blanche, c'est vraiment une BD coup de claque et très tendre à la fois. L'autrice c'est Maëlle Réa, c'est une grande autrice BD qu'il va falloir suivre. Ça s'appelle
on va
Blanche.
Découvrir. On vous remercie pour cela, Sébastien. Alors, Laura, heureusement qu'hier, vous nous avez rappelé qu'aujourd'hui, c'était la fête des pères. Hein, et ça vous a doublement inspiré ce week-end.
Oui, c'était l'occasion pour moi de vous parler de la tendance des dadfluenceurs.
Ouais.
Car si vous connaissiez les mêmes fluenceurs, figurez-vous que le phénomène existe aussi côté papa. Alors, les pères n'hésitent pas à partager leur quotidien, à donner des conseils et même pour certains à lancer leur propre marque. C'est le cas d'Eddie Papéo, qui est quand même suivi par 500 000 abonnés. Il y a aussi les papas gays comme Pierre, plus connu sous le pseudo de Ma vie de papa gay. C'est le papa d'une famille homoparentale et avec son mari, ils ont des jumelles et une troisième petite fille.
Donc, ces deux copains, moi, ils sont en couple.
Ah, ils sont gays.
Ouais, ils sont gays.
Gays.
Gays. Et on dit comment quand c'est deux filles qui sont amoureuses?
Elles sont
gays.
Voilà, ça fait du bien. Et puis il y a aussi les papas influenceurs engagés comme Samuel Clot qui milite pour l'écologie et la justice sociale.
Alors, votre compte à suivre, Laura.
La vraie histoire, c'est le nom du compte. C'est plus qu'un simple compte, c'est un vrai média dédié à l'histoire qui propose des modules vidéo ultra bien conçus et très addictifs.
Massacrée dans les rues de Paris, la princesse de Lamballe était l'une des plus proches amies de Marie-Antoinette d'Autriche. Elle lui est restée fidèle de son arrivée à Versailles jusqu'à la fin. Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan continue de suivre la reine même lorsque la Révolution éclate en 1789. Alors que la plupart des nobles quittent la France, elle reste. Quand la famille royale quitte Versailles pour les Tuileries, elle les soutient et rejoint son amie. Et comme elle était proche de la reine,
un petit tuto avant le bac.
Franchement, c'est scroller intelligent. Et ça fait du bien.
Merci beaucoup, Laura. Merci Sébastien et Nicolas Caro. À tout à l'heure, 18h.
Vous écoutez Europe 1 Matin Week-end, il est 7h48.
Europe 1, le journal permanent.
Présenté par Théo Grévin.
Israël et l'Iran poursuivent leurs échanges de tirs. 10 morts et plus de 130 blessés sont à déplorer après des tirs de missiles iraniens sur le centre d'Israël et la région ouest de Jérusalem, ont annoncé les secours. En parallèle, l'État hébreu dit avoir visé le ministère de la Défense iranien et des sites liés au projet d'armes nucléaires. Emmanuel Macron veut apporter un message de soutien au Groenland. Le président français se rend aujourd'hui sur ce territoire autonome du Danemark, territoire convoité ces derniers mois par par Donald Trump. Le président américain, invoquant des raisons de sécurité internationale, ambitionne de mettre la main sur cette île, la plus grande du monde et riche en métaux rares. Aux États-Unis, une élue locale démocrate du Minnesota et son mari ont été tués à leur domicile dans la nuit de vendredi à samedi. Les autorités ont déclenché une vaste chasse à l'homme pour retrouver le tireur habillé en policier. Un manifeste avec une liste de nombreux noms d'élus a été retrouvé dans la voiture du suspect. Et puis du rugby, Toulon vient à bout de Castres et rejoint Bordeaux-Bègles en demi-finale de Top 14. Les Toulonnais se qualifient dans le dernier carré pour la première fois depuis 2017. En bas du classement, Perpignan a arraché son maintien en Top 14 en battant Grenoble.
Merci Théo. 8h10 sur Europe 1.
Vous écoutez Bienvenue chez vous avec Guy Hoquet.
Ok.
Guy Hoquet, l'immobilier.
Bienvenue chez vous.
Allez, comme chaque dimanche, avant de feuilleter le JDD, coup de projecteur sur le logement, les astuces, les bons plans. Bonjour Christophe Bordet.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, très bien. D'autant bon. Qu'on part pour la Dolce Vita.
Eh oui, oh, on va être bien là, au bord de l'Adriatique, dans les Pouilles.
Ah, magnifique les Pouilles.
Au sud de l'Italie, maison à toit conique. Fermes et palais au milieu des oliviers, c'est magnifique. Mmh. Immobilier historique, construction en pierre sèche. On atterrit à Bari ou bien à Brindisi, plus de 10 millions de voyageurs par an. Beaucoup de Belges et désormais beaucoup de Français, car les prix, oui, sont attractifs pour les étrangers qui veulent s'installer dans le sud de l'Italie. Emmanuel Di Girolami, agent immobilier, là-bas, quelle chance.
Le prix au mètre carré, on est aujourd'hui entre 1300 et 1500 euros le mètre carré. Et si on veut vraiment aller sur la partie haut de gamme, on va arriver à 3000, 3500 euros le mètre carré. Tout ça pour des loyers en location saisonnière qui sont l'équivalent de ce qu'on peut trouver ici en France. Donc vous voyez, il y a une très grande différence entre le prix d'acquisition et le prix des loyers qui sont quand même très confortables.
Alors bon, 3500 euros le mètre carré à l'achat, c'est quand même deux fois moins cher que chez moi dans les Hauts-de-Seine, oui, par exemple. Hein, donc voilà. Et puis alors, on a beaucoup plus grand et on peut louer au même prix que si on était sur la Côte d'Azur. Donc c'est ce qu'il expliquait, c'est quand même hyper intéressant. D'avril à novembre, 120 jours de location saisonnière contre seulement désormais 90 jours en France Airbnb, mais avec une petite règle légèrement contraignante.
Règle qui impose à tous les propriétaires qui font de la location saisonnière d'être physiquement présents lors de l'arrivée des hôtes. Ce qui crée forcément une difficulté supplémentaire. Donc c'est pas grave, l'Italien est agile, il sait rebondir, donc le pays et les gens se sont organisés pour pouvoir accueillir justement les voyageurs.
Bah oui, oui, évidemment, les gens se sont organisés. Il y a des astuces pour accueillir vos hôtes, et oui.
Ça peut être un mandataire, un professionnel à qui on a donné mandat, qui va lui être présent pour pouvoir accueillir les voyageurs au moment de la remise des clés.
Bon, évidemment, il faut le payer, hein, c'est normal, pas ça. Gratuit. Et puis, il faut également faire appel à un agent immobilier, un notaire, pour éviter les pièges. Car parfois, tenez-vous bien, la maison que vous achetez dans les Pouilles est sur un terrain qui n'appartient pas au propriétaire de la maison. Ah oui, ça peut paraître complètement dingue. Mais c'est le résultat d'un cadastre qui n'a jamais été revu depuis les années 30.
Il faut qu'on s'assure, quand on met un bien en vente, que le propriétaire soit bien propriétaire. Et par exemple, surtout, que le bien qu'on achète soit sur un terrain qui soit bien propriété du vendeur. Parce que dans les Pouilles, c'est très courant d'avoir un bien construit sur un terrain donné à bail emphytéotique.
Alors, bail emphytéotique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un bail qui peut avoir 100 ans. Qui peut même avoir 999 ans. Et alors là, bon courage pour aller chercher celui qui avait le terrain il y a 999 ans. Alors bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut être extrêmement prudent. Heureusement, les notaires sont habitués. Dernier point, frais de notaire, justement, taxe moins élevée également qu'en France. Donc ça, c'est pas mal. À partir, en gros, de 250 000 euros, on trouve donc des propriétés avec piscine, truffées d'oliviers. J'achète.
Ah bah vous nous faites envie.
Moi, j'achète.
Europe1.fr pour
retrouver cette chronique. J'achète. Voilà.
Vous avez écouté Bienvenue chez vous avec qui ?
Avec Guy.
Qui ?
Guy.
Ok. Vous avez écouté Bienvenue chez vous avec Guy Hoquet l'immobilier. Guy Hoquet, l'immobilier avec un grand plus.
Europe1 matin week-end, c'est de 6h à 9h avec Lénaïque Monnier et il est 7h53.
L'heure de retrouver Geoffroy Lejeune pour la lecture du JDD. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Lénaïque, bonjour à tous.
Directeur de la rédaction du journal du dimanche et à la une ce matin. Geoffroy, l'actualité internationale forcément, mais pas uniquement.
Et oui, c'est un gros numéro du Journal du Dimanche. Alors évidemment, on parle de ce qui se passe entre Israël et l'Iran, évidemment, et de la course nucléaire. Mais on a choisi de revenir en profondeur sur, en effet, le meurtre terrible de Mélanie Anojan pour essayer de répondre à toutes ces questions qu'on s'est posées cette semaine sans y apporter pour l'instant beaucoup de réponses. On a essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une société bascule à ce point comme ça, aussi régulièrement dans l'horreur absolue, à peu près inexplicable. Et on a posé la question, évidemment, à des spécialistes. On vous a raconté, on vous raconte tout ce qui se passe et le phénomène des couteaux chez les jeunes. Mais on a posé la question à deux personnes. Personnalité politique particulièrement exposée sur ce sujet, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui livre une analyse au vitriol de ce qui s'est passé depuis mai 68 en France. Il fait le lien entre l'effondrement de l'autorité, le jouir sans entrave et sous les pavés la plage, et la situation d'aujourd'hui, en disant qu'on a fait exploser tous les repères, toute l'autorité qui permettait à une société de tenir debout. C'est un entretien qui, à mon avis, fera parler, parce que le ministre de l'Intérieur assume un diagnostic sans aucune complaisance, et reproche même à la droite, d'ailleurs, d'avoir parfois été sous le joug intellectuel de la gauche. Et puis il y a un autre entretien qui va beaucoup faire parler, c'est Catherine Vautrin. Catherine Vautrin, elle est ministre du Travail, de la Santé et de la Famille. Et à ce titre, elle revient dans le Journal du Dimanche aujourd'hui pour les mêmes raisons et avec ce même constat d'impuissance du politique sur le fait qu'il va falloir changer beaucoup de choses en matière d'éducation. Et elle annonce une série, une batterie de réformes qui va faire beaucoup parler, notamment l'interdiction des écrans pour les enfants avant l'âge de 3 ans, en expliquant que c'est comme l'interdiction de la fessée. Ça n'est pas efficace parce qu'on ne peut pas aller vérifier chez les gens ce qui se passe, mais psychologiquement, ça change quelque chose. La fin des allocations pour les parents démissionnaires, beaucoup de mesures, le congé maternité, le congé parental pour que les parents puissent s'occuper mieux de leurs enfants, des aides aussi pour l'aide à domicile, la garde à domicile. C'est beaucoup de mesures très concrètes qui vont être donc potentiellement mises en place très rapidement par le gouvernement et qui vont faire réagir dès aujourd'hui dans le Journal du Dimanche.
Et on lira le Journal du Dimanche. Merci Geoffroy Lejeune, bon dimanche à vous.
Merci, bon dimanche à vous.
Et demain, lundi, et comme tous les jours de la semaine d'ailleurs jusqu'au vendredi, vous allez retrouver Thomas Hill et toute son équipe de 9h30 à 11h pour Culture Média sur Europe 1. Ils recevront demain Jonathan Lambert et Fred Testo pour le podcast « Tenez, goûtez, c'est délicieux », mais aussi des auditeurs privilégiés qui viendront assister à l'émission à l'occasion de la semaine de la grande famille Europe 1. Culture Média, présentée par Thomas Hill, c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 11h sur Europe 1. Mais aujourd'hui, c'est dimanche, dimanche 15 juin, jour de la fête des pères. Alors bonne fête évidemment à tous les papas qui nous écoutent.
Sûr.
Et ce dimanche est aussi le début de la Coupe du Monde des clubs, nouvelle compétition de foot. Les premiers matchs ont eu lieu cette nuit. Ce soir, à 21h, le PSG fera face à l'Atlético de Madrid. Alors, il y a 32 équipes au total, une seule équipe française, donc le PSG. Mais les équipes viennent des 5 continents. Peu d'enthousiasme pour l'instant pour cette nouvelle compétition de la FIFA. Francine ne voit pas l'intérêt de cette nouvelle compétition. Antoine, lui, de l'Isère, va suivre les rencontres du PSG et du PSG seulement. On verra bien si ça sera un succès d'audience, mais il en doute.
Vous continuez évidemment à alimenter la page d'Europe 1 matin, week-end, pour nous donner votre avis sur l'actualité. Actualité marquée, bien vous le savez, par les événements, les tirs de missiles entre Israël et Téhéran. On y revient évidemment dès le début du journal de 8h avec le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Et puis j'accueille juste après Emmanuel Razavi, grand reporter franco-iranien spécialiste du Moyen-Orient, qui sera l'invité d'Europe 1 matin week-end d'ici quelques instants. Bon réveil à tous.
La semaine prochaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1.
Une semaine exceptionnelle.
Venez rencontrer vos animateurs.
Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez.
Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses et célébrez les succès d'Europe 1.
Entrez dans la grande famille Europe 1. Pour en savoir plus, rendez-vous sur europe1.fr.
Rubrique Le Club Europe 1.
Voyage en Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1100 km de paysage, un seul plein et zéro recharge. Le moteur s'adapte entre thermique ou électrique pour 1100 souvenirs. Nouveau Renault Austral Full Hybrid E-Tech dès 400€ par mois. 2 mois de loyer offert. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Renault, numéro 1 de l'hybride en France.
Austral Evolution Full Hybrid 200€ option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 5 000€. Troisième et quatrième loyer offert. SIA Cordiaque. Offre à particulier du 12 au 16 juin. Numéro 1 des ventes depuis 2024. Source 3 à date à mai 2025. Voir Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Téléchargez l'application Europe 1.
Tout Europe 1 dans votre mobile.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9. Identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Les plus belles choses arrivent souvent à la dernière minute. Comme le but décisif du match.
Ou cette offre qui te change l'été.
Costa vous sauve à la dernière minute. Réservez votre croisière d'été de 8 jours à partir de 699 euros par personne. Dépêchez-vous, c'est jusqu'au 30 juin. Info en agence ou sur costacroisiere.fr. Costa.
Pas très confort ces Transat, non?
Ah, je suis bien, moi.
Mais c'est quoi ce petit bruit énervant, là?
Tu veux dire la mer?
La mer, c'est ça.
On s'habitue vite au confort du nouveau Skoda Elroq 100% électrique. Découvrez-le dès 339 euros par mois. Portes ouvertes ce week-end. Offre à particulier jusqu'au 30 juin. LLD 37 mois pour un Elroq 50. Apport de 0 euros après bonus écologique de 2000 euros déduit. Sur réserve d'accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr.
Skoda.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Bienvenue sur Europe 1, vous avez choisi Europe 1 matin week-end avec Lénaïque Monnier de 6h à 9h et nous sommes le dimanche 15 juin.
Autrement dit, jour de la Sainte Germaine, difforme malade orpheline de mère rejetée par son père, Germaine Cousin, née en 1579, morte en 1601, originaire de Pibrac.